Donc le titre assez, je trouve, suggestif, qui a été inventé par les organisateurs, c'est « Le droit sans entreprise ». Ce qui semblerait suggérer que si le droit est un phénomène social extrêmement palpable, important, c'est un phénomène qui, en propre, ne parle pas de l'entreprise, ne compte pas l'entreprise parmi ses références. Je tempérerai un peu, évidemment, ce propos, mais il n'est pas, à mon avis, tout à fait inexact. Il est même peut-être fondamentalement intéressant et exact pour comprendre à la fois ce que le droit dit et ce que le droit libère, c'est-à-dire permet, rend possible, institue même grâce à cette indifférence à l'entreprise. J'essaierai d'abord, dans un premier temps, de situer un peu les rapports entre l'entreprise et le droit, sans avoir de définition même stipulative de l'entreprise. Partons dans cette quête sans avoir même d'idée très préconçue de ce qui pourrait être, dans d'autres savoirs savants, l'entreprise. Mais ce sur quoi il faut s'entendre, c'est sur ce qu'est le droit. Ça, c'est plus difficile, finalement. Et je vais retenir là une définition assez couramment utilisée chez les juristes qu'on appelle positivistes, c'est-à-dire ceux qui estiment que leur tâche est surtout de décrire et de systématiser ce que le droit énonce. Bon, ça c'est une vision positiviste. Donc ils ne réfléchissent pas forcément aux rationalités inhérentes ou à l'efficacité du droit. Leur tâche est de décrire les énoncer, les commenter, les mettre en ordre. Donc pour eux, le droit, c'est un ensemble de prescriptions émanant de l'autorité publique. C'est la vision qui est diffusée dans les enseignements, disons dans les universités, pas peut-être complètement, parce qu'il y a heureusement des résistances ou des critiques, des positions, des distances critiques, mais c'est la position habituelle. C'est comme ça qu'on forme les futurs juristes. La tâche des juristes, c'est donc de décrire ces énoncés prescriptifs qui émanent de l'autorité publique. Bon, ça c'est une... On ne peut ne pas être d'accord, hein, je le dis tout de suite, assez avec cette vision, et moi personnellement je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je le retiens plutôt pour que mon propos ait des bases stables. Alors, si on retient cette vision de ce qu'est le droit ne pense pas, ne connaît pas, ne parle pas de l'entreprise. Alors, il y a une petite exception, bien sûr, historiquement bien connue, c'est que dans le code de commerce, napoléonien, l'expression figure, mais elle désigne, on le sait depuis toujours, quelque chose de très simple. C'est un ensemble d'activités qui tendent à donner à celui qui est actif et qui assure ses activités une profession. Le professionnel, c'est donc celui qui a une activité au sens du code de commerce. Et cette activité, elle s'appelle, dans le langage du code de commerce, entreprise. On dit entreprise de négoce, entreprise de... Donc c'est vraiment l'activité. C'est une activité. C'est donc un ensemble d'actes qu'on appelait dans le code de commerce d'actes de commerce. Un ensemble d'actes de vente, de transformation de marchandises. Ce vocable n'a jamais suscité aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, des commentaires magnifiques ou intéressants. Donc je vais oublier cette dimension, peut-être à tort. Parce que ça, le droit... En tout cas, la langue juridique, le discours juridique évoquait l'entreprise comme activité. Je n'évoquerai pas non plus, pas maintenant en tout cas, dans la discussion si vous le souhaitez, l'extraordinaire débat qui a traversé le XXe siècle sur l'entreprise comme institution. Chez les juristes, il y a eu ce débat aussi, pas seulement chez, c'est un dialogue avec les sociologues notamment, et les, plutôt la science politique, une partie de la sociologie de l'époque. Et il y a des noms en Allemagne, évidemment, en France, attachés à ce débat sur l'entreprise est-elle c'est l'expression de, ces, de cette idée institutionnelle. Je pourrais en parler assez longuement, c'est un sujet que j'ai parcouru un petit peu dans les années précédentes. Je pense que ça n'a pas eu tellement de pénétration justement dans le ni dans la systématique juridique, c'est-à-dire dans la dogmatique juridique, ni dans les travaux de théorie du droit, c'est-à-dire ceux qui essaient de voir derrière le droit ce qui n'y est pas visible. Hein, c'est ma définition de ce qu'est une position théorique, aussi discutable. Ça n'a pas, donc je n'en parle pas trop, même si je ne cache pas que la discussion introduite dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est en France, c'est dans les années 20 jusqu'aux années 40, et même sous Vichy, cette thèse a été très diffusée, avec des auteurs qui ont écrit en 1941 des choses très importantes chez les juristes sur l'entreprise-institution, même si ce débat était vif, je le répète, intéressant, mais bon. Ce que le droit pense et organise, c'est donc la société. Ce que, dans un élan très simplificateur, on désigne comme étant une forme juridique. Donc le droit, il pense la personne morale, qu'est la société civile ou commerciale. Il pense l'entrepreneur aussi, mais ça ne nous intéresse peut-être pas beaucoup ici. Il pense la responsabilité limitée des actionnaires. Et donc, vous en avez déjà parlé, et puis dans cette très belle entreprise menée sous l'égide des Bernardins, nous en avons beaucoup parlé. Donc, le droit dit de manière absolument nette et sans ambages que les actionnaires ne sont en rien propriétaire de l'entreprise. Si l'entreprise, c'est quelque chose que je n'arrive pas à évoquer pour l'instant, mais que le droit ne pense pas et ne désigne pas, les actionnaires, ils sont propriétaires de leur action, et c'est la société qui pourrait éventuellement avoir un rapport avec l'entreprise, mais ce n'est pas les actionnaires. Donc la formule les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, pour un juriste, c'est une formule absolument inepte. Elle n'a pas de consistance. Et comme le droit ne pense que société, le droit pense frontière. Il pense frontière parce que ce qu'il dessine, ce sont les actifs ou les biens de la société, donc un ensemble cohérent de biens, rapporté à une société qui en est propriétaire, et le droit pense la localisation de ces biens et la localisation de cette société. Une société a une loi applicable, elle est soumise à un droit. Alors il y a des débats en Europe très importants sur cette question, intéressants, notamment les Allemands sont très très attaché à essayer de maintenir ce qui est une vieille règle que j'indique, intéressante, c'est que la loi applicable à une société commerciale, c'est la loi de son siège réel, c'est-à-dire là où siègent ses organes sociaux, et non pas la loi du pays où elle est enregistrée, qui est la formule plutôt hollandaise, la formule anglaise, et la formule que l'Europe tente à épouser de plus en plus. Bon. Mais on voit bien, le droit va penser territoire, localisation. Donc, je procède doucement. Le droit ne pense pas l'entreprise, le droit pense la société. Mais, troisième remarque, le droit, dans une large mesure, repose dans toute une série de dispositifs sur un modèle d'organisation dont je vais essayer de donner le statut pour les juristes. C'est-à-dire, prenons le droit du travail. Le droit du travail, donc, est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre employeurs et salariés ou entre employeurs et collectifs de travailleurs ou entre organisations représentatives des uns et des autres. Ben, je n'ai pas besoin d'insister. Ce droit repose sur un modèle d'organisation. Il est très intéressant, une sorte de modèle anthropologique, si on veut, très intéressant d'essayer de repérer quel est ce modèle, on peut dire pour l'instant, implicite. Mais ce n'est pas exactement cela. Vous voyez, une collectivité organisée autour d'un processus de travail, placée sous une autorité. C'est un peu ça, ce présupposé, qui évidemment prend l'eau de partout, mais qui a été, pendant des années, le présupposé sur lequel reposaient les dispositifs dont je parle. Et le statut, donc, de ce modèle organisationnel, c'est plutôt d'être un présupposé non explicite, non codifié, non formalisé des dispositifs juridiques. Un présupposé. Donc on n'a pas besoin de se mettre d'accord, c'est une sorte de convention. Il y a toutes sortes de termes qui viennent, mais je préfère pour l'instant dire que c'est vraiment un présupposé. Hein? D'où d'ailleurs, pour prendre un exemple, c'est intéressant de prendre cet exemple qui est trivial, enfin presque, ça fait partie de ces questions de droit que les juristes adorent. Un représentant du personnel, un délégué syndical, il représente cette collectivité auprès de ce titulaire de l'autorité. Alors, premier exemple, enfin le seul que je prendrais, cette collectivité, c'est par exemple une collectivité d'agents de nettoyage. Et ils travaillent chez des clients, les agents de nettoyage. Alors, est-ce que le délégué syndical peut pénétrer dans une entreprise autre que la sienne? Difficile question. Et est-ce qu'il peut aller vérifier les conditions de travail auprès du client? C'est pas... on voit bien que ce modèle d'organisation... implicite, il est à la fois visible quand il est critiqué, quand il vit une épreuve, et là l'exemple que je donne c'est une épreuve, et pourtant il a une vitalité très forte parce qu'on va dire mais cette collectivité elle peut, titre exceptionnel, être une collectivité non localisée dans des locaux dont le titulaire de l'autorité a la maîtrise, ça peut être dans des locaux dont des tiers ont la maîtrise. Et ça va demander 10 ans de débat chez les jurys, chez les juges, généralement, les avocats. Alors, pour montrer quand même que, même si l'entreprise, ou plutôt ce modèle d'organisation que je n'ai pas encore décrit, est un présupposé, cette collectivité autour d'un processus de travail placé sous une autorité, ce modèle d'organisation... est un présupposé donc des dispositifs juridiques, la dissociation qui existe très forte entre la société et ce modèle organisationnel, qui n'est qu'un présupposé, cette dissociation conduit à ce que l'autorité soit toujours rapportée à une personne morale, à une société. Bon. C'est-à-dire, dès qu'il y a une épreuve juridique, ce qu'on appelle un litige, on va faire citer devant le juge, non pas l'organisation, mais la société qui est supposée être le titulaire de l'autorité. Donc on reconduit systématiquement l'autorité à une personne morale. Et les deux mécanismes qui sont vraiment ceux qui agencent, au fond, les responsabilités, dès lors que ces responsabilités doivent être évoquées devant un juge, c'est le contrat plus la personne morale. Alors, je ne cache pas que ce modèle que j'ai essayé pour l'instant de ne pas trop décrire, d'organisation, ce modèle est très, en tout cas, le droit est un très bon lieu d'observation des troubles que ce modèle qui a ce statut de présupposé connaît, parce qu'on voit des collectivités segmentées, parce qu'on voit des autorités qui ne sont plus reconductibles à une personne morale particulière. Et donc, il y a des efforts à la fois pour reconstruire des collectivités ou pour prendre acte de l'incapacité de les reconstruire. Il y a des processus dans lesquels on voit l'autorité reconduite non pas à une personne morale, mais à une constellation de personnes morales, etc. Mais le droit reste toujours là, guidé par ce qui est son point de départ que j'ai donné, c'est-à-dire il ne connaît, il ne pense que les personnes morales, la société qui est une personne morale. Je vais peut-être dire un mot peut-être sur... c'est vrai que là c'est une des commodités pour les juristes. Pour moi, toute société est une personne morale, mais la personnalité morale, c'est ce qui permet d'être titulaire de droit et d'obligations, et d'être responsable. Donc d'avoir à rendre compte, si éventuellement, devant un tiers institué pour mettre fin à des différends. Bon. Alors, il faut, et c'est encore un point, faire quand même le état, je vais essayer de progresser doucement, de l'existence de certains droits spéciaux. Et je vais rendre hommage à Corinne Gendron qui m'a obligé à évoquer ça tout à l'heure à cause du déjeuner. Droits spéciaux, je vais dire ce que j'appelle ça, droits spéciaux. Certains droits spéciaux, certaines provinces du droit, on va dire, qui évoquent l'entreprise et en parlent. Et il faut essayer de comprendre ce que on peut déduire de cela. Alors, ces droits spéciaux, je dis spéciaux parce que c'est pas ce droit instituant les personnes et les choses. Le droit institue les personnes et les choses. C'est un droit qui, ces droits spéciaux, ce sont des droits qui sont des polices, c'est-à-dire des actions publiques se servant du droit pour parvenir à leur fin. Exemple, on pourrait dire la police de la consommation ou la police de la concurrence. Alors on appelle ça chez les juristes droit de la concurrence, ou on appelle ça droit de la consommation, mais ce sont en réalité des polices. C'est-à-dire le droit est totalement instrumental. Le droit est au service d'une fin qui est de veiller à la survie des structures concurrentielles ou la protection de la santé du consommateur, etc. Le droit de la concurrence appartient typiquement à ces polices. Et d'ailleurs, dans le traité de Rome, dont on a oublié qu'il s'appelait le traité de Rome initialement, en 1957, Dieu sait, c'est important ce qui a été dit à ce moment-là, il est fait état d'un chapitre, le chapitre qui a donné naissance à floraison de réflexion et d'initiative, il y est fait état de politique de la concurrence, pas de droit de la concurrence. Et d'ailleurs, il est fait état de politique sociale et pas de droit du travail non plus. Mais enfin, c'est une vision très instrumentale du droit. Alors, dans le droit de la concurrence, que je préférerais, si je pouvais, appeler police de la concurrence, c'est-à-dire le droit est un outil au service d'une fin. Dans le droit de la concurrence, l'entreprise apparaît. C'est-à-dire dans le discours juridique du droit de la concurrence, référence est faite à l'entreprise. Et je peux essayer d'expliquer pourquoi. Et ensuite, j'oublierai le droit de la concurrence et reparlerai des droits spéciaux en plus grande généralité. Pourquoi il est fait état de la concurrence de l'entreprise? Parce que cette police de la concurrence, elle s'est construite progressivement sur un modèle qui est le modèle d'un manuel de microéconomie. Et certains présidents de l'autorité de la concurrence l'ont même dit, mon rêve c'est d'avoir un simple manuel de microéconomie, c'est tout. Le reste c'est de la cuisine. Bon. Et donc, dès lors qu'on fait de la microéconomie, on doit chercher quel est l'agent sur le marché. Et l'entreprise, ça n'est rien d'autre que ça, c'est très pauvre. Quand la Cour de justice de l'Union européenne recherche quelle est l'entreprise, ce qu'est l'entreprise, elle recherche quel est l'agent sur le marché. Pour pouvoir dire c'est lui qui a agi, c'est lui à qui est imputable l'action. Alors, je vais donner deux illustrations parce que ça a un certain intérêt pratique, mais la Cour de justice dit d'ailleurs que l'entreprise, au sens du droit de la concurrence, c'est un centre de décision autonome sur le marché. Vous voyez, c'est la définition de l'agent économique. L'exemple, c'est dans un groupe de sociétés, une filiale qui refuse de céder des produits à un client, et le client furieux dénonce la pratique anticoncurrentielle, et dit « c'est la société mère qui est responsable ». La Cour de justice va dire « je vais regarder s'il existe dans la filiale un centre de décision autonome sur le marché. » Et si elle reconnaît que la filiale agit comme bras armé de la société dominante du groupe, elle dira « l'acte est imputable à la société dominante ». Et elle dira « c'est le groupe qui constitue ensemble un centre de décision autonome ». De même, quand il y a un accord à l'intérieur d'un groupe, cette fois-ci, entre une société dominante et des filiales pour répartir l'action sur un marché, en disant « s'il y a une commande de la Chine, c'est vous qui l'honorez », on va dire c'est une entente à l'intérieur entre sociétés, entreprises. Typiquement ce que le droit de la concurrence ne tolère pas. Eh bien non, ce n'est pas une entente parce que ce n'est pas un accord entre agents économiques autonomes. Donc c'est un acte d'organisation de l'agent économique lui-même. Donc c'est intéressant de relever ça, mais ça n'en dit pas plus sur ce qu'est l'entreprise. L'entreprise, là, c'est l'agent économique sur le marché. Alors, je vais généraliser un petit peu cette observation. Dans certains, vous voyez, droits spéciaux, police, l'entreprise apparaît de temps en temps. Mais celui qui a montré très bien, c'est Charley Hanoun, il n'est pas loin, dans un superbe livre là-bas, d'autrefois, il a très bien montré, au fond, que chaque police avait besoin de ses références pour être cohérente, et que certaines avaient besoin d'une référence à un agent économique ou une organisation. Et donc, là, il n'y a aucune pensée globale de l'entreprise. Il y a une pensée, simplement, de la référence utile pour que la police puisse être construite et être efficace. Donc, il y a, si vous voulez, même s'il y avait 18 références à l'entreprise, une en police de la consommation, une en police de la concurrence, une en police de l'environnement, parce qu'il y en a dans la police de l'environnement, les pollutions. Bon, il y aura autant de visions de l'entreprise, puisque le problème, c'est de savoir quel est le point de référence utile pour que le but poursuivi par cette police soit atteint. Il n'y a aucune pensée cohérente et globale de l'entreprise. Il y a des fragments de discours sur l'entreprise, voilà. Et c'est vrai même dans le droit de la pollution. Alors, j'ai essayé de montrer l'ignorance que le droit a marqué à l'égard de l'entreprise, en précisant que on peut dire il y a quand même une sorte de présupposé de modèle organisationnel, on pourra en discuter plus. Et de temps en temps, l'apparition dans des discours juridiques spécialisés de ces références à l'entreprise. Ce qui est important, et ça va être un deuxième point rapide mais majeur pour moi, c'est quelle est la portée, quelle a pu être la portée de cette ignorance, de cette indifférence. Alors, je pense que cette portée, je peux la faire apparaître à travers deux propositions qui méritent toutes les deux d'être longuement développées, donc je ne le ferai pas trop, et discutées. La première proposition, pour montrer la portée de cette indifférence du droit à l'égard de l'entreprise, c'est que ceux qui animent, dirigent, sont maîtres de l'entreprise, ont des prérogatives, des pouvoirs qui sont ancrés dans les dispositifs juridiques. Donc le droit institue des prérogatives pour les managers, pour d'autres. Et les dispositifs juridiques offrent donc des canaux par lesquels ces pouvoirs, ces prérogatives s'exercent. Donc, les pouvoirs des dirigeants, pour appeler ça comme ça par exemple, ces pouvoirs des dirigeants sont institués par le droit, légitimés. Donc il serait pas juste de déduire de ce que j'ai dit que ce que l'on voit à l'œuvre dans une organisation, ce que l'on voit à l'œuvre, les pouvoirs, les injonctions, les choix organisationnels, n'ont pas d'ancrage dans les dispositifs juridiques. Ils en ont. Et donc, un manager, un dirigeant, il peut tout à fait dire « J'ai le droit de faire ça. Hein? » Et j'ai même un droit souvent discrétionnaire de le faire. Mais ce n'est pas cette première proposition qui est la plus importante, c'est la seconde. C'est que le pouvoir qui est libéré, qui est attribué, est un pouvoir qui va très au-delà des prérogatives que le droit institue et décrit. La dissociation, si vous voulez, entre l'entreprise et la société libère un pouvoir qu'on peut dire métajuridique, un pouvoir, alors ça je vais me retourner plutôt vers Stéphane Vernac, parce que c'est vraiment ce que Stéphane a dans les dernières années, je crois, magnifiquement mis en lumière, un pouvoir qui est un pouvoir, il l'appelle d'organisation, un pouvoir d'organisation, c'est le pouvoir donc de faire des choix d'organisation qui distribuent les pouvoirs et les responsabilités. Ce qu'il a appelé, je crois, dans une expression, c'est un pouvoir sur les pouvoirs. Les pouvoirs juridiques, dont j'ai parlé dans ma première proposition, sont agencés, organisés par un pouvoir qui, lui, n'est pas entièrement régi par le droit, il l'est très peu même. Ce pouvoir d'organisation, qui est donc ancré dans le droit tout en étant libéré, c'est un pouvoir qui est un pouvoir unique. Je vais en parler un peu plus, il va falloir aller plus loin. C'est on peut dire un métapouvoir, hein, un métapouvoir, puisque c'est un pouvoir sur les pouvoirs juridiques. Et il n'existe pratiquement, peut-être à l'exception de l'Union soviétique à l'époque où elle était une superpuissance et où elle avait des pouvoirs sur les pouvoirs constitutionnalisés des satellites de l'Union soviétique, il n'existe probablement dans l'histoire, à part les empires, et encore les empires c'est un autre système d'organisation, il existe très peu de schémas de pouvoir ayant une telle puissance. Hein? Puisque ce pouvoir d'organisation, c'est un pouvoir de choisir qui aura des pouvoirs, comment ils seront exercés, et qui sera donc responsable. C'est un pouvoir de distribuer à l'intérieur d'une constellation, on va voir déterritorialisée, parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir des références au territoire, qui doit rendre compte, qui doit même s'exposer à des poursuites pénales. Hein, puisqu'on peut tout à fait, avec ce pouvoir, dire qui est délégataire des prérogatives et donc qui encourt les responsabilités pénales pour pollution, méconnaissance des règles de mise sur le marché des médicaments, etc. Je parle là d'histoires que certains connaissent, dans lesquelles on découvre que certains dirigeants de sociétés qui n'ont fait que se voir attribuer des prérogatives, se voir attribuer une responsabilité pour des choses qui sont évidemment inscrites dans la forme d'organisation, mais sur lesquelles ils ne peuvent plus grand-chose. Hein. Alors, cette portée de l'ignorance, si vous voulez, de cette sorte de libération d'un pouvoir, d'un métapouvoir, a incité certains, et je vais peut-être continuer un peu à évoquer ça, pas trop longuement, a invité certains à dire, bon, on pourrait peut-être, et je vais évoquer ça, alors moyennant une autre posture que celle que j'ai dite, en n'étant pas positiviste, essayer de proposer une autre analyse de l'entreprise. Autre entreprise qui aboutit à en parler un peu dans la langue du droit. Mais ça oblige à changer de position et à se dire, là je vais faire plutôt un travail plutôt théorique, donc je ne décris pas le droit positif. Je vais essayer, en partant du droit positif, de comprendre ou de proposer un cadre d'analyse de son mode de fonctionnement. Donc j'émets une hypothèse sur le fonctionnement du phénomène juridique. Et l'hypothèse, elle n'est pas très, très originale, parce qu'elle a été très travaillée à partir du milieu du XXe siècle, pas pour l'entreprise, hein, mais elle a été très travaillée ailleurs. C'est l'hypothèse du pluralisme des ordres juridiques. Bon, j'en dis un mot pour ceux qui ne seraient pas familiers, et je peux comprendre, c'est pas très facile. Dans la tradition positiviste, la tradition que j'évoquais au début, j'ai dit, le droit c'est un ensemble de prescriptions émanant de l'autorité publique. Donc le droit émane de l'État. Le droit émane de l'État. Il n'y a d'ordre juridique qu'étatique. C'est ce qu'on apprend encore aujourd'hui dans beaucoup de lieux. Donc, l'État, c'est le droit, et le droit, c'est l'État. Certains disent ça. Alors, on peut émettre une hypothèse différente, ou plutôt critiquer ce point de vue, et dire non, il y a d'autres foyers de création de règles juridiques. Il y a des ordres juridiques non étatiques. Et je vais citer le nom que certains connaissent bien ici, c'est un juriste italien qui a théorisé ça le premier, je crois, hein, pouvoir dire, je ne suis pas le seul à le dire, c'est Santi Romano, grand juriste malheureusement oublié longtemps parce qu'il a été un suppôt du régime mussolinien, traduit en France en 1965. Donc, plus de 40 ans après avoir écrit ce qu'il a, des ouvrages importants, lui, il disait, quand vous observez le fonctionnement de la mafia, vous voyez un ordre juridique privé. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? Il existe un accord de tous ceux qui vivent dans et par l'organisation sur le foyer initial du pouvoir, d'où viennent les règles, donc il est un accord sur un système de production de règles. Ensuite, par définition, un accord sur les règles de conduite qui sont produites par ce système, donc des règles de production de règles, des règles de conduite et des règles sanctionnatrices. Et quand vous avez les trois qui forment un ensemble auquel tout le monde est soumis à l'intérieur de cet ordre, vous avez un ordre juridique privé. Règles de production de règles, règles de conduite, règles de sanction, qui peuvent être un coup de revolver, la sanction, puisque c'est des sanctions n'ont nul besoin d'être étatiques. Ce sont des sanctions, des réactions à la méconnaissance d'une règle de conduite énoncée selon le système de production de règles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette construction, cette hypothèse d'analyse des ordres juridiques privés, elle se prête à une certaine vérification empirique, certains l'ont fait, en disant on peut découvrir, en analysant des grandes, disons, corps sociaux, on peut découvrir des ordres juridiques privés en les caractérisant, en faisant apparaître leur système de production de règles, les règles de conduite qui émanent ce système et puis les règles sanctionnatrices. Et parmi ces ordres juridiques privés, il y a probablement la grande entreprise. En tout cas, toute une série, alors on ne peut pas dire que toute le soit, mais l'entreprise. Alors, comme l'ont dit certains, ça ne veut pas dire que c'est un état de droit, la grande entreprise. Hein. C'est un ordre juridique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire qu'elle respecte ce que nous appelons les canons de l'état de droit. Ce n'est pas ça, c'est un ordre juridique. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de normes, alors de conduite, ça on l'observe, par exemple des chartes, des codes de conduite, des manuels du personnel, toute une série de documents hein, qui recèlent des énoncés ayant valeur de règles, et un accord sur ce système de production de règles. C'est-à-dire personne ne conteste ou ne pourrait contester que une DRH d'un grand groupe a une capacité d'élaborer un manuel du personnel pour les expatriés, que la direction financière avec telle et telle partie du top management doit faire établir la déontologie des managers, etc. Donc il y a un système de production de règles qui est assez détectable, visible, et un système, alors c'est ce qui est plus facile à voir, un système de sanctions qui peuvent être des mutations, des non-paiements de primes. Vous voyez, là, l'entreprise, elle a tout un système de sanctions, c'est-à-dire de réaction à des méconnaissances de règles. Voilà. Donc, l'hypothèse serait que, avec l'aide de ce pluralisme des ordres juridiques, la grande entreprise, au fond, l'entreprise, pas la société, pas la personne morale, l'entreprise serait un ordre juridique autonome. C'est une idée qui a été formulée dès la fin des années 70, repris par Jean-Philippe Robé longuement. C'est quelque chose, par exemple, qui est présent dans les travaux d'un juriste franco-hellénique qui s'appelle Nikita Salipantis, qui a, dans un article assez important des milieux des années 80, élaborer cette hypothèse. Alors, l'intérêt de cette hypothèse, c'est qu'elle permet de comprendre que cet ordre juridique privé est le lieu d'expression justement d'un pouvoir, que ce pouvoir est déterritorialisé. Et, alors, je vais terminer peut-être par là. La question, c'est, faut-il aller et comment vers une forme de domestication de ce pouvoir? Certains disent, et moi je suis de ceux-là, que c'est vraiment la question majeure des sciences sociales. Les sciences sociales, quand elles réfléchissent à un ordre désirable, hein, ce qui n'est pas forcément toujours l'objectif des sciences sociales, enfin la raison d'être. Bon, alors, pour peut-être avancer un petit peu, je ferai deux séries de remarques. D'abord, ce qu'on peut observer, c'est les contacts entre cet ordre juridique privé, ces ordres juridiques privés et les ordres juridiques étatiques. Et ça, déjà, c'est très important d'analyser ces rapports. Ce ne sont pas des rapports de soumission de l'un à l'autre, ce sont des ordres juridiques qui ont leur vie, leur dynamique distincte, mais il y a des interrelations. Et de temps en temps, c'est ça que je peux faire apparaître, il y a des réactions assez curieuses, intéressantes, des ordres juridiques étatiques. J'en donne un exemple, ou deux. Certains disent, regardez, il y a des ordres juridiques étatiques qui utilisent ce qu'on appelle l'effet d'Estoppel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on peut, c'est né dans c'est une très vieille notion française qui est passée en Angleterre au XVIIIe siècle et qui est revenue sous ce nom-là au XXe en France d'ailleurs. On peut opposer à un pouvoir ce qu'il fait. Exemple, l'administration fiscale, on peut lui opposer sa doctrine. Elle estime qu'elle impose de telle manière certains revenus, et bien celui auquel on prétend ne pas appliquer cette doctrine, il peut opposer à l'administration fiscale sa doctrine. Vous faites ça d'habitude, ben vous allez le faire aussi vis-à-vis de moi. C'est, si vous voulez, l'interdiction qui est faite à un titulaire de pouvoir de se contredire au détriment d'un administré ou d'un sujet. Interdiction de se contredire au détriment d'autrui. Alors, cette maxime de bon sens, si on veut, mais qui ne joue que pour ceux qui ont un pouvoir, c'est-à-dire qui ont une capacité d'imposer une décision à autrui. On la voit à l'œuvre dans les rapports entre la grande entreprise et l'ordre étatique. D'une certaine manière, c'est ça dont a été sanctionné Nike dans l'histoire de publicité mensongère. Quand un grand groupe dit « je fais respecter les droits fondamentaux des enfants ou que je produise les droits à l'interdiction du travail des enfants » et qu'on s'observe que dans des entreprises qui se vantent d'avoir un comportement particulièrement responsable et on constate que dans un sous-traitant, chez un sous-traitant, c'est pas vrai. Alors, on peut leur dire « bon, vous avez dit que vous êtes engagé à, vous êtes lié parce que vous dites tout ce que vous faites ». Donc on va vous l'opposer. Et là, ça a conduit même à une responsabilité à la demande d'associations de consommateurs. De même, vous voyez, quand on voit des documents publicitaires partir avec le titre du grand groupe, on pourrait dire, si jamais il y a un accident, un vice caché dans les produits qui sont diffusés, le groupe est responsable parce qu'il s'est présenté comme groupe. Ça, c'est une des formes possibles, vous voyez, de réaction de l'ordre étatique à l'ordre juridique privé de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que l'ordre soit totalement domestiqué, mais ça veut dire qu'il y a des capacités de réaction. De même, c'est ce qui est en cours dans certains pays, la reconstruction des processus de décision, en disant... c'est pas la filiale qu'on doit tenir pour responsable du plan de licenciement ou du plan de réduction d'effectifs, c'est le groupe. Pourquoi ? Parce qu'on vous reconstruit le processus de décision. Et on a bien vu, c'est une décision du comité de direction qui a demandé à chaque directeur de faire remonter des informations sur où pourrait-on supprimer des emplois, à quelles conditions. Organisations syndicales, certains juges commencent à dire la filiale n'est pas seule responsable de ce plan. On reconstruit le plan, le processus de décision. Pourquoi ? On épouse simplement ce que le groupe fait. Bon. On lui oppose sa propre pratique. Bon. Alors, ça c'est un premier point intéressant parce qu'on relève plutôt que certains ordres juridiques étatiques, certains États, savent au fond tenir compte de l'existence de ces ordres juridiques privés, déterritorialisés. Mais la seconde remarque, c'est faut-il aller au-delà ? Ça, c'est une question plutôt prescriptive. Bon. C'est pas une question d'analyse des pratiques actuelles, c'est ça le thème qui a été un de ceux des programmes des Bernardins dans une partie sur je vais essayer de dire un tout petit mot sur la constitutionnalisation des ordres juridiques privés. Pour ceux qui ne suivent pas tout à fait ces discussions, je peux essayer d'en montrer le ressort. Les pouvoirs, les ordres juridiques étatiques, ce qu'on appelle les qui libère des pouvoirs publics. Les ordres juridiques étatiques sont, depuis le XVIIIe siècle, progressivement constitutionnalisés. C'est-à-dire qu'il existe des règles explicites de distribution des pouvoirs entre le gouvernement, le parlement, et des règles sur les rapports entre les pouvoirs publics et les citoyens. Une constitution aujourd'hui, c'est toujours deux choses. C'est une charte des pouvoirs publics et une charte de la société elle-même. On aurait tendance peut-être à l'oublier. On a connu, en deux siècles et demi, une évolution majeure des ordres juridiques étatiques. Et aujourd'hui, c'est même, on verrait, des critères pour bénéficier d'aides publiques. Il suffit de voir là, les débats avec certains pays de l'Europe de l'Est, membres de l'Union européenne, sur la séparation des pouvoirs ou sur le respect des droits fondamentaux de la personne. Les ordres juridiques privés, entreprises en particulier, ne doivent-ils pas être sur, non pas le même modèle, mais sur la même idée, pas le même modèle. Il ne s'agira pas d'avoir des chartes proclamées, probablement pas du tout. Ne doivent-ils pas être constitutionnalisés? C'est-à-dire que progressivement apparaissent en leur sein, mais rendu explicite, des chartes sur les pouvoirs. Ça peut être quelquefois de l'auto-réglementation, c'est pas forcément de l'hétéro-réglementation. Là, les sources peuvent être extrêmement variables. Et ne faut-il pas qu'apparaissent l'équivalent de la charte des sociétés, la charte de la société, c'est-à-dire un ensemble de règles que l'organisation juridique privée est tenue de respecter dans les rapports avec ceux qui subissent ces actions. Qu'il s'agisse des travailleurs, qu'il s'agisse des consommateurs, qu'il s'agisse des... c'est une quête probablement extrêmement discutable dans son principe, même si j'ai essayé de montrer que elle était probablement... j'ai suggéré que c'était une des questions absolument majeures de l'évolution même de nos sociétés. Quelle forme prendra cette constitutionnalisation? Ça, c'est une question certainement à laquelle il est très difficile de répondre par avance. Ce qui est probablement une des tâches des uns et des autres, c'est d'essayer de repérer, de systématiser et de faire connaître les formes progressives que prend cette constitutionnalisation, qui est en cours. Elle est en cours dans des débats multiples, et je terminerai comme ça, parce que j'ai terminé. S'il y a débat aujourd'hui, j'espère avoir montré que c'était peut-être important, les débats ont lieu même à Cérisy. Et ces débats sur la constitutionnalisation prendra des voies qui ne sont pas des voies décidables à l'avance, quelquefois simplement dans un beau lieu historique dans lequel un certain nombre de personnes se disent « Ben oui, il faut peut-être que je parle de ça un peu dans mon action, dans mon activité. » Quelquefois c'est dans un prétoire, quelquefois c'est dans un conseil d'administration, quelquefois c'est ailleurs. Je pense que, avec d'autres d'ailleurs, la voie par laquelle passe la constitutionnalisation des ordres juridiques privés est une voie, et ce sont des voies plurielles, multiples. Et surtout, que personne ne peut tracer avec sécurité à l'avance. Voilà, merci.